Bonsoir, chers auditeurs, pour cette nouvelle émission de BAF Radio. Il est libre, il est libéré. Le tribunal islamique d'Afghanistan vient de rendre la liberté à Abdulrahman, le musulman converti au christianisme, qui était menacé d'une condamnation à mort pour le simple fait de sa conversion. La communauté internationale était intervenue en masse, notamment l'Australie, le Premier ministre avait décidé d'intervenir directement, le Canada, George Bush et les États-Unis, de nombreux pays d'Europe aussi, avaient décidé de demander directement la libération du chrétien afghan Abdulrahman. Aux dernières nouvelles, il serait en direction de l'Italie, on pense en tout cas avec sa famille. Son extraction s'est faite dans la plus grande discrétion pour éviter, disons, que des extrémistes ne mettent finalement la condamnation à mort à exécution. Nous recevons ce soir pour notre émission Monsieur Andarias, Hussein Andarias de AfghanTimes.com, que nous avons déjà interviewé la dernière fois, et nous recevrons dans une vingtaine de minutes Monsieur le conseiller national UDF, donc parti évangélique, Marcus Waffler, qui vient de déposer une question auprès du Conseil fédéral pour demander que la Suisse intervienne auprès de l'ONU et demande l'allègement un petit peu du régime qui pèse sur les chrétiens dans les pays musulmans. Donc nous allons commencer tout de suite avec Hussein Andarias. Les personnes qui souhaiteraient intervenir peuvent le faire via l'interface du site www.bafweb.com en cliquant sur Chat with me ou nous envoyer un email à l'adresse habituelle que vous trouvez aussi sur le site. So, Mr. Andarias, good evening.
Good evening, sir.
So, he's free. Thanks God.
Yes, he is free. That's right. A lot of people prayed for him. And it's a good thing that he is free. But I still do have other concerns. But he is free. Praise God.
Alors, Monsieur Andarias nous dit que oui, effectivement, la nouvelle est confirmée. Abdulrahman est libre. So we have seen on internet that he was flying to Italy.
Yes, I also, I have it on my website, AfghanTimes.com.
And do you know when he will land?
I think he just landed about an hour or two ago because it was not disclosed until now. So about 30 minutes ago, I came to know first.
Alors, la nouvelle vient de tomber, il aurait effectivement atterri en Italie il y a à peu près une heure, donc vraiment, cette fois-ci, à moins d'un rebondissement malheureux, Abdulrahman serait sauvé. So, we have also seen that the parliamentarians of Afghan governments blasted the decision of the courts to release Abdulrahman.
Yeah, basically the Afghan government, the rule of law there is the Sharia, Islamic Sharia law. So Islamic Sharia law actually prohibits his going out of the country and is strictly, the order for him is to be punished by death. So that is the reason they are angry.
Alors, nous lui avons posé la question de savoir s'il était vrai que les parlementaires afghans étaient intervenus pour dénoncer la décision de la Cour de le relâcher. Et M. Andarias confirme, effectivement, la charia donc interdit un dhimmi de quitter le pays aussi facilement, et surtout un musulman apostat. La charia exige la condamnation à mort, et donc ils ont demandé qu'elle soit malgré tout exécutée. Got another question of the Abdul case. Where is his family?
His family remains in Kabul. You know, they did have family dispute, and I'm going to tell you a few things that he did have some rough times. He did have some, if not mad, he did have some mental problems such as frustration, depression, and all those kind of things. And I believe this is all because of a lot of troubles that he went in his life. And I heard that, he was divorced and he was struggling for the custody of his children. But because his children grew up under his father and as Muslims taught, so they naturally rejected the father. And I just now received statement by two of the daughters, 14, both 14 years and 13 years, Maryam and Mary, both of them spoke against the father, that they were abused in a way, that they were beaten up, or also that they were not coming back to Islam. So I do not know the reality, but this is a statement that has been signed. They couldn't sign, but they put a thumb ink. It could be forced. It could be anything. But that's what the news is coming up. But finally, he is now released, and so the family, his family, remains back home there in Kabul.
Alors nous avons posé la question de savoir où étaient passés donc sa femme et sa fille, ou ses enfants, pardon, et donc il semblerait qu'ils soient restés donc en Afghanistan. Nous savions que c'était donc effectivement sa famille qui avait dénoncé sa conversion. Alors il y aurait des bruits selon lesquels effectivement il aurait souffert de frustration et de troubles psychologiques successifs à son divorce et à une longue lutte pour la garde justement de ses deux filles. Donc l'une s'appelle Mariam et Marie, je crois que ce sont à peu près les deux le même âge, hein, 13 ans. Et ces deux mêmes filles ont signé, enfin elles n'ont pas vraiment signé, elles ont mis leur pouce avec un peu d'encre, n'est-ce pas? L'Afghanistan, les femmes ne sont pas n'ont pas le droit d'aller à l'école. Et donc elles ont signé une déclaration qui pourrait être forcée, c'est ce que pense notre ami Monsieur Andarias, déclarant qu'elles auraient été battues et maltraitées par leur père, leur père chrétien évidemment. On peut avoir quand même certains doutes légitimes quant à la véracité de cette déclaration. So, can we know something? Because we can read on the internet that the court said Abdulrahman was crazy.
So. Well, yes, that's what the court said. You know, if I believe if you are alone in a country where everyone is against you, they can say anything they want.
Okay. But so what you've just said about the beating up the daughters, is it possible or not?
It could be possible. It could not be possible. A man could be frustrated. A man could be frustrated. A man could be, could be so much depressed that he could have done. Mm-hmm. But no one has seen except the family members who actually handed over to him. You know, in my society, it is a rare thing. In my society, most of the parents, they beat their children. Most of them. I mean, almost 90% of them, they do that, you know. But at no time you could see anywhere in the history of Afghanistan that a father is thrown away of the house or handed over to be killed. And it is so clear that it is only because of his faith that it has happened.
Right. Alors nous avons demandé si effectivement les déclarations de la cour d'Afghanistan déclarant qu'Abdulrahman était fou étaient plausibles suite à ces déclarations signées par ses deux filles. Alors effectivement, Monsieur Andarias répond qu'il n'en sait rien personnellement, mais que dans un pays où tout le monde est musulman, il est clair qu'un converti chrétien passe pour un dingue, c'est assez évident, et que on ne peut pas vraiment voir les choses autrement quand on a cette vue un petit peu particulière qu'ont les musulmans d'Afghanistan. We can also cite, you know, Saint Paul in Corinthians 3:18. He says, "Do not deceive yourself. If any one of you thinks he is wise by the standards of this age, he should become a fool, so that he may become wise." So that's why maybe Abdulrahman is fool.
Well, you are so much right. I would again quote Matthew's Gospel, you know, chapter 10, where Jesus Christ Jesus Christ says that a disciple is not greater than his master. And I would quote John's Gospel, chapter 10, verse 20, where his own family members, Jesus' own family members, said that he is mad, he is insane. You see, Jesus was not insane. Jesus was in his mind. I accept Jesus as God, But there are many people in the world who does not accept Jesus as God. But these people, they accept that Jesus was at least a great teacher. So you see, a man who is accepted as a great teacher, his own family members, said that he was mad, he was insane.
Alors nous avons cité à Monsieur Andreas ce passage de la première épître aux Corinthiens 3:18 qui dit vraiment que il ne faut pas se tromper. Celui qui croit passe pour un fou dans la société actuelle, évidemment. Et Monsieur Andreas Arancha, il dit effectivement, c'est aussi le cas du Christ à son époque, abandonné par tous et traité de fou par ses ennemis, par ses adversaires. Et effectivement, dans ces conditions, la position d'Abdul Rahman ne fait que rejoindre ce qu'ont vécu conjointement le Christ et Saint Paul. So now, excuse me. So now you must tell us what happened with AfghanTimes.com, with all this story.
Yeah, well, there is this man who was brought before Jesus. The blind, born blind man. He was brought before Jesus, and this born blind man was brought before the Pharisees. And before the Jewish priests, and he was asked to tell about Jesus. He said, "Well, I don't know what you're talking about. I don't know whether he is demonic or not. I know only one thing: I was blind, and now I can see." So this whole situation has made an opening, opening the eyes of the people. They now know that there exists a lot of Afghan Christians, thousands of Afghan Christians, thousands of them. We call each other all the time. We email each other. I mean, are all Afghan Christians blind? Are all Afghan Christians mad? And those kind of things that are happening. And considering that Afghans around the world and many others are just going to AfghanTimes.com, it's enormous, and I'm going to tell you more once you translate this.
Yes, thank you. Alors, Monsieur Andreas a insisté sur vraiment le témoignage d'Abdoul. Quand on lui a demandé si c'était vraiment en Dieu qu'il croyait, il a dit je ne sais pas si c'est. On lui a dit que c'était mal, ce qu'il croyait que c'était démoniaque. Il a dit je ne sais pas si c'est démoniaque, mais en tout cas j'étais aveugle et maintenant je vois. Et il semblerait que ce témoignage ait eu énormément de retentissement auprès des Afghans chrétiens ou non. Et tous ont commencé à s'écrire, à se joindre justement sur la plateforme internet de M. Andreas, qui est, je le rappelle, afghantimes.com, sur laquelle vous pouvez aller. C'est en lien sur notre site, évidemment. Et donc vraiment cette chose-là a pris une importance, on a vu la publicité que ça a donné. Et alors il semblerait que le site d'AfghanTimes.com se soit énormément développé sous ses auspices. So we listen to you.
I have 21 websites. The most visited website of mine was watandar.com, that is WATANDAR. .com.
Okay.
It had around monthly basis, it had around 50,000 unique visitors, and combining all my 20 websites, I had hardly in a month 500,000 visitors. But AfghanTimes.com did not have any visitor, almost only 300 unique visitors per month. But okay. for the last 10 days or so, since this thing has happened, we have on watandar.com daily basis 500,000 visitors, which is enormous. I mean, I'm just surprised to see the statistics.
Okay.
And people from around the world downloading files and watching news and sending me emails, contacting me.
Alors oui, donc M. Andreas nous dit qu'il a donc de nombreux visiteurs à présent sur son site. Il gère une vingtaine de sites et le plus développé, que je vous donnerai d'ailleurs, parce que je n'ai pas vraiment retenu le nom, mais je vous le donnerai sur le site la prochaine fois, réunissait difficilement un demi-million, ce qui n'est pas mal pour l'Europe, mais ce qui pour les États-Unis n'est pas si grand que ça, un demi-million de lecteurs par mois. Et Afghan Times, dont nous parlons souvent à présent, puisque c'est le site qui nous intéresse, ne dépassait pas les 300 visites par mois, ce qui est absolument presque rien, vraiment, en tout cas pour les États-Unis. Et puis, il semblerait que depuis le début de cette histoire, le premier site dépasse largement les 1,5 million et entraîne un petit peu à sa suite AfghanTimes.com. And so you told. You told me also about the first show we met together.
Yes. Okay. A lot of Afghans are showing interest, you know, and right now I don't know how you send a text message on Skype. I could have sent you, so that you could have seen how people are writing in short phrases. Oh, okay. Well, let us see. There you go. For example, I received just now this one has even a telephone number, and his English is not good, but he is writing. My phone is this. My religion is Islam. I want to tell you for your religion. Which means, I want to talk with you about your religion. Mm-hmm. I'm Muslim. I want to talk about your religion. And I have received a lot of other emails just in the past 1 hour. And one man here, let me open the other account. And one man here right now, he's writing in Farsi. And he's writing from Bamiyan. And he's writing that I want to become a Christian. But I need some help from you to understand, and he says that I'm fascinated by things. Yes, and his name is I will call his name Eb. I don't want to give his full name because it could be dangerous for him. I'm sorry. But these are the things. The last interview that we did the other day.
Yes.
And you put the file on your website. I downloaded and I put it on my website.
Yes.
Guess millions of people, literally about 3 million people downloaded that file.
That's amazing, We can't
That
believe
is.
It.
Yeah, and I put only, not the whole program. I
yes.
cut it.
Mm-hmm.
So that I also don't have much this thing. I had only few GB of transfer, mm-hmm, per mm-hmm. month. Now I had to buy 10 terabytes of transfer.
Okay.
10, because it was failing. It was failing. And I now have 10 terabytes of transfer.
Alors je traduis donc, Monsieur Andreas reçoit à l'instant même des emails du monde entier, notamment de pays musulmans. De nombreuses personnes d'Afghanistan lui écrivent. Par exemple, il nous a transmis là un numéro de quelqu'un qui dit « Ma religion est l'islam et je voudrais parler avec vous de votre religion ». Un autre correspondant lui écrit que voilà, il voudrait devenir chrétien, mais il voudrait parler avec Monsieur Andreas pour savoir un petit peu, pour mieux comprendre le christianisme. Donc effectivement, ça bouge beaucoup du côté d'AfghanTimes.com, et donc il nous a encore raconté qu'il avait, si vous voulez, isolé le morceau d'interview que nous avions fait avec lui le 23 mars dernier, et qu'il l'a mis sur son serveur, et qu'il a eu 3 millions de téléchargements. Ce qui n'est quand même pas mal, et ce qui donc fait de Bafweb Radio, n'est-ce pas, une des premières chaînes de radio d'Europe, excusez du peu, c'est quand même assez amusant, mais on voit que finalement ça vaut la peine quand même d'essayer de faire des choses. So now, we see that what happened to Abdul Rahman was a wonderful thing, and we thank the Lord for this, but what will happen now for all the Christian community in Afghanistan?
Yeah, well, it's a hard choice to make. I received an email from an Afghan journalist from inside Afghanistan. I'm not putting his all message, but because he says not to put his website address, and he has given me his website address, his telephone number, his name. So he says, don't mention my name because my life will be in danger. But I just sent you. And he says, because of some articles about the religion of Islam and novel which has been written in Madrasa Life, some people are threatening me. So I request you not to publish my name and email address anywhere. Did you read that?
Yes, I will translate. Yeah. Donc, Monsieur Andreas reçoit encore des messages, notamment de journalistes, et il y en a un dont on ne peut publier ni le nom ni le site internet, qui dit être en réel danger. Donc, il a publié des articles et un roman sur l'islam et sur la vie dans les madrassas, qui sont donc ces écoles coraniques extrêmement strictes en Afghanistan et qui envoient un petit peu en Occident et dans les Balkans une masse d'imams pas franchement tendres, hein, c'est pas le mot qu'on emploierait. Et il dit, à cause de ça, des personnes me menacent et menacent ma vie, et c'est pourquoi je vous demande de ne pas publier mon nom et mon adresse email. Donc on s'aperçoit que la liberté en terre d'islam n'est pas franchement au goût du jour. So, dear brother, we see that this is not even for Christian community that Islamic law is hard, but do you know we will have some change for the Christians in Afghanistan?
Yes, you know, I just typed another message I sent you. Of course, you cannot read it. It is in Arabic. It's in Arabic script. It is Farsi. This man, he says, you know, I desire to accept Jesus Christ as my Savior. You know, and he's asking for guidance. Another man wrote that I want a Bible. Can you send me a Bible? You know, and people are taking now interest in Christianity because of this situation. You know, whether this man was a mad, insane, or whoever he was, or he was whatever he was, that's not my problem. My problem is that this man, the moment he said he's a Christian, everyone said, oh, kill him because of his Christianity. Not because he abused his children. Not because not because of any other dispute that is there. The killing, the fatwa of killing was given because of his Christianity, not because of other things. And my fear is that right now, what about the other Afghan Christians?
Mm-hmm.
What is going to happen to them?
Exactly.
Who is going to take care of those people? I mean, I'm not a madman. Am I a madman, brother? I'm speaking with you.
Uh-huh.
I mean, I have four computers right now in front of me working on four computers. I have AfghanTimes.com. I have a daily radio program for Afghanistan. I have a TV program for Afghanistan. And I speak on monthly basis, in 4 to 5 churches. I have never seen anyone saying that I'm a madman.
Mm-hmm.
So what about me? What about me? If I go to Afghanistan, they will call me also mad and they will hang me? Where is human rights? You know, we live in 21st century. Where are the rights of an individual and other religion?
Okay. Alors, donc, nous recevons encore des messages, donc, d'Afghans qui nous disent, voilà, je suis intéressé par le christianisme, envoyez-moi une Bible, expliquez-moi comment ça marche un petit peu le christianisme. Et donc monsieur Andreas insiste sur le fait que, voilà, peu lui chaud, hein, peu lui importe que Abdulrahman soit fou ou non, cet homme un jour est venu, a dit je suis chrétien, et ça je suis chrétien et ça a suffi, si vous voulez, à provoquer la colère de tous les musulmans et à le déclarer fou. Il dit encore qu'il s'occupe de plusieurs sites internet, qu'il fait une émission de radio et de télévision par jour, qu'il communique avec plusieurs églises d'Afghanistan plusieurs fois par mois, où il fait des espèces de conférences comme ça en ligne, et personne ne le considère comme étant proprement fou. Au contraire, il a une certaine influence. Et il dit lui-même que s'il allait aujourd'hui en Afghanistan, on le pincerait, parce qu'il est converti, on se rappelle qu'il nous avait dit ça la dernière fois, on le pincerait et on le déclarerait fou. Donc, C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que le message, peu importe un peu la personnalité ou les défauts de caractère, s'il y en a, parce que ce n'est pas avéré, mais c'est ce que prétend en tout cas la cour islamique, peu importe les traits de caractère d'Abdul, c'est son témoignage qui prévaut et qui a une influence absolument prépondérante sur la communauté afghane et musulmane en général. Et ce qui est assez maintenant un petit peu préoccupant, c'est que va-t-il advenir des chrétiens? Est-ce que la colère du peuple va retomber sur eux? So, my last question for this part of the show. Do you believe that the Muslim community will try to... Yes, we will have a rage access against the Christian no after this story?
You know, they will do. I just this morning I received information from inside Afghanistan, a telephone call saying that now the government secretly, you know, they of course they will not go internationally to show the international community, but they are searching door to door to find in any man's house if they can find a Bible to, you know, just to punish that person.
Really?
And you know. Yes, because I received a telephone call.
You don't have the right to have a Bible.
No, you don't. In Afghanistan, if you are found with a Bible, and if you are an Afghan, you will be asked why you are keeping that Bible. And if you couldn't answer properly, which normally you don't, you know, incredible, why you are keeping. Yeah. And you will be killed. And you know what? Abdurrahman's case was something, you know, he was lucky that it got the attention of the media. Mm-hmm. There are many other Afghan Christians who have been killed in the past, even 2 years ago. One man by the name Asadullah. I'm mm-hmm. writing, you know, Asadullah. He was killed by slitting his throat, you know, in Ghazni province. I mean, just because he said he's a Christian. That's what exactly is going to happen now. So where is the international community now to cry out for the other Afghans? I mean, this man, Abdurrahman, he's now in good health in Italy. Probably he will enjoy life there. But what about the other Afghan Christians?
Yes. Alors, Monsieur Andreas nous dit qu'effectivement, le gouvernement maintenant, il reçoit plusieurs coups de téléphone à ce propos, le gouvernement maintenant a donné la chasse aux chrétiens, c'est très clair, un Afghan en possession d'une Bible est amendable et peut donc faire l'objet d'une condamnation, donc le gouvernement est extrêmement sévère de ce point de vue-là, et M. Andreas pose la question où est la communauté internationale à présent. Le cas d'Abdulrahman n'est de loin pas récent, il y a eu un cas précédent, où un chrétien s'était fait donc trancher la gorge pour le simple fait d'avoir apostasié, n'est-ce pas, l'islam. Et M. Andreas insiste énormément sur le fait que Abdulrahman a eu énormément de chance que son cas vienne à la connaissance de la communauté internationale. Alors il y a effectivement ce cas de l'interdiction de la possession d'une Bible. Où est la communauté internationale là-dessus? Peut-on les continuer à laisser des espèces de dingues, parce que les fous ce sont vraiment eux, gouverner un pays qui a soi-disant été libéré des talibans, parce que c'est absolument absolument effrayant, quoi. Okay, Hussein, we will have a disc and we will take our Swiss deputy Markus Weller, if
yes.
if you agree that.
Yes, sir.
So we put a disc and we take you in 4 minutes.
Okay, sir.
See you.
See you.
Thank you.
Nous sommes de retour donc sur BAF Web Radio. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Ceux qui veulent intervenir ont le loisir d'aller donc sur www.bafweb.com et de communiquer avec nous via l'interface de Skype. J'ai un petit chat dans la gorge, je suis absolument désolé pour ceux que ça pourrait un peu fatiguer. Donc, suite à l'émission avec M. Andreas, nous recevons à présent notre conseiller national UDF de Zurich, je crois que c'est bien ça.
Ouais.
Monsieur Markus Waffler. Monsieur Markus Waffler, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, si nous vous avons ce soir au téléphone, c'est pourquoi nous vous remercions. C'est parce que vous avez donc déposé une question auprès donc du gouvernement du Conseil fédéral pour demander donc une intervention plus directe du gouvernement suisse auprès de l'ONU pour dégager un petit peu les chrétiens qui sont dans les pays musulmans comme l'Afghanistan ou l'Algérie. C'est bien ça?
Oui, oui.
Alors, que dit-elle en gros, finalement, cette question?
Alors, dans les termes. La raison pour cette question était la suivante. J'ai appris que, justement, en Algérie, est entrée en vigueur une ordonnance du gouvernement qui interdit toute activité religieuse chrétienne en dehors des églises reconnues par l'État. Alors, ça serait ça restreint les églises dans les maisons, dans les habitats de ces communautés chrétiennes en Algérie. Et puis cela avec des punitions qui vont jusqu'à 5 ans de prison et puis des amendes assez salées. Et puis pour moi personnellement, eh bien cela n'est pas acceptable, surtout puisque la constitution algérienne garantit aussi la liberté de religion, la liberté de foi. Et du reste aussi, l'Algérie est un pays qui a signé les droits de l'homme, qui garantissent aussi ses droits à tous les citoyens. Et en même temps, j'ai lu dans les journaux, dans les quotidiens, l'histoire de cet homme en Afghanistan qui a été arrêté puisqu'il s'est tourné vers la foi chrétienne et qui a risqué justement d'être condamné à mort selon les droits qui existent. Aussi, l'Afghanistan est un pays qui reconnaît énormément les droits de l'homme tels qu'ils sont définis par l'ONU. Et puis, mon idée, c'était de mettre en action notre gouvernement, Madame Calmiret, ouais, pour qu'elle intervienne direct sur la voie diplomatique envers les autorités algériennes et en Afghanistan pour les rendre attentifs à ce qu'ils prévoient de faire va contre leur propre constitution d'une part et puis les droits de l'homme de l'autre part, et que la Suisse est contre ce genre de jeu. Et en plus, vu qu'on est aussi membre de l'ONU politique à présent, sur ce niveau-là aussi d'initier une activité de la Suisse contre ce genre d'activité des pays islamiques contre les minorités chrétiennes.
Mais alors, ma question...
Je n'ai pas encore reçu de réponse de la part du gouvernement.
D'accord, oui, ça peut attendre jusqu'à la prochaine session, c'est un peu ça. Oui.
Moi, en règle générale, on reçoit une réponse par email, bien sûr, la homepage de la Confédération, on voit comment ils ont répondu, ce qu'ils ont comme intention.
D'accord. Ouais. Donc, ma question propre, c'est, donc, je ne savais pas que l'Afghanistan avait signé la Convention des droits de l'homme. Est-ce qu'ils ont signé les droits de l'homme pour les pays arabes? On sait qu'il y a une déclaration parallèle qui n'interdit pas la peine de mort sous certaines réserves. Ou est-ce qu'ils ont signé le pack entier des droits de l'homme que tout le monde signe en général?
Je ne sais pas s'ils ont fait des réserves envers les droits de l'homme. Il faut aussi bien dire que signer les droits de l'homme, ça ne veut rien dire. Hein. Si on regarde la somme des pays sur le plan mondial, la Chine ou aussi d'autres pays, puis comment ils traitent des minorités dans leur propre pays, ça ne veut encore rien dire. Mais tout de même, je crois que ces droits de l'homme donnent quand même une possibilité à la communauté internationale d'y intervenir et puis de faire pression, au moins politique, sur ces gouvernements, sur ces régimes, ce qui a déjà abouti dans maintes cas aussi à des corrections, en tout cas dans des cas isolés au moins. Alors, je sais pas quelle réserve Afghanistan avait fait, mais d'autre part, il faut dire que la constitution que Afghanistan s'est donnée récemment, eh bien, elle reconnaît aussi les droits
des minorités
islamiques dans leur code pénal. Ça il faut aussi le dire. Bon, c'est une sorte de contradiction dans un certain sens, mais vu qu'ils avaient fait cette assemblée des tribus de tout le pays, eh ben il était clair que les systèmes de droit pénal islamique y sont entrés.
Parce que bon, là, Monsieur Andarias, donc de AfghanTimes.com, qui est un média d'Afghans chrétiens aux États-Unis en direction de la communauté chrétienne d'Afghanistan, nous disait qu'il recevait quotidiennement des coups de téléphone et des emails disant que l'État avait commencé à donner la chasse aux chrétiens, qu'il y avait donc des gens qui rentraient dans les maisons des chrétiens et s'ils trouvaient une Bible, les gens étaient emmenés. Donc il semblerait que la possession d'une Bible pour un Afghan soit quelque chose de strictement interdit par la loi musulmane du lieu.
Bon, je n'y connais pas exactement les droits, mais vu que les majorités dans ce pays sont islamiques, et puis il faut pas oublier que probablement les moullahs ont plus de pouvoir que le gouvernement, eh bien, ça est vite possible qu'il y a des actions contre les minorités chrétiennes, qu'ils essayent à les effacer, et d'autant plus que malheureusement aussi les talibans ont plutôt plus d'influence aujourd'hui que ces années précédentes. Alors moi, c'est pas pour le bien de ces communautés chrétiennes puis ces minorités chrétiennes dans ce pays.
Donc, sans vouloir faire des raccourcis, on pourrait dire que l'intervention américaine en Afghanistan, à l'instar aussi de ce qui se fait en Irak, a été plutôt bénéfique pour l'islamisme radical.
D'un côté, oui. Je pense que plus que cette situation avec les Américains ou bien aussi avec les troupes de l'OTAN dans le pays dure, plus je crois que la population s'organise contre, parce qu'ils envoient des gens qui ont
contre l'oppression
qui font de la pression envers eux, surtout puisque le potentiel terroristique augmente et puis ça force les troupes de l'OTAN, aussi les soldats européens, de faire pression. Alors tous ces troupes représentent quand même le monde chrétien malgré tout. Et puis, je crois, ça aide aux musulmans de trouver du soutien dans leur pays.
D'accord.
Malheureusement.
Alors, oui. Alors, il y a quand même une question que moi je me pose en tant que bon citoyen d'un pays occidental. Enfin, je crois qu'il y a deux questions à se poser. La première, c'est qu'il y a donc la pression diplomatique. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une autre pression, c'est la pression économique. Il me semble quand même que l'Occident a les moyens d'isoler les gouvernements fanatiques de ces pays musulmans et puis de leur dire, écoutez, soit vous devenez des gouvernements humains et on traite avec vous, soit vous allez vous faire voir chez les Grecs, hein, façon de parler, et puis au revoir et merci.
Ouais, c'est toujours là qu'on voit que c'est l'argent qui règne le monde. Eh bien, malheureusement...
Afghanistan quand même, c'est pas...
Oui. Bon, Afghanistan, en tout cas envers les Américains, Afghanistan a une grosse signification stratégique pour les pipelines de pétrole et puis de gaz provenant depuis les pays voisins au nord, Ouzbékistan, tous ces pays-là au nord de l'ancienne Union soviétique. Il y a des projets de pipelines à travers l'Afghanistan, au Pakistan, pour la côte au Pakistan, qui ont joué un grand rôle aussi dans la guerre des Américains contre le régime taliban en Afghanistan. Bon, ça a jamais été gros, ça a toujours été un peu à l'arrière-plan, mais ça a joué un rôle. Et puis c'est pour ça aussi que oui, Afghanistan joue ce rôle stratégique. Du reste, ils ont un peu même une même situation stratégique comme par exemple la Turquie pour le pétrole provenant de Azerbaïdjan, cette région-là, pour les pays européens et l'Amérique.
D'accord.
Alors, l'argent, justement, là, les intérêts pétroliers, les intérêts d'énergie pèsent dans bien des camps, ou le plus souvent plus lourd que les étalons éthiques. Mais il faut tout de même dire déjà, rien que une intervention politique a un effet. Ça a l'effet que aussi pour les concernés, qu'on les a pas oubliés. À mon avis, ça c'est très important pour les gens concernés qui sont chassés, qui remarquent qu'ils sont pas oubliés par les chrétiens dans notre pays. Alors, au moins,
alors,
ça,
il y a eu,
ça fait un grand effet.
Il y a eu effectivement un cas qui a fait scandale en Hollande,
ouais.
Où une députée a accepté un Iranien homosexuel et a fait rejeter, enfin son cas est encore un peu pendant je crois, rejeter un Iranien chrétien. Donc est-ce qu'on peut dire qu'en Suisse, des gens comme Abdul Rahman, donc cet Afghan converti, qui maintenant vient d'atterrir en Italie, est-ce qu'il sera accueilli à bras ouverts ?
Au bras ouvert, je sais pas. Lui, il est maintenant devenu un peu renommé parce que son cas isolé a été su par les mass médias en Europe, et ce qui a provoqué une pression sur le régime. Je crois que c'est à cause de ça qu'il est encore en vie. Mais il y en a maintes dans sa même situation qui n'ont pas eu la chance justement de s'en sortir d'une telle manière. Mais je pense aussi que lui, et puis des autres dans la même situation qui vivent dans nos pays ici, peuvent quand même aussi aider à leurs concitoyens à la maison en Afghanistan.
Entendu.
Du reste, on a une situation semblable aussi à l'Iran, qui est très très, ils sont très très sous pression là. Et aussi là, des Iraniens, il y a des groupes qui sont dans les pays de l'Ouest, qui s'occupent aussi pour les contacts dans leur patrie.
D'accord. Alors, maintenant, moi, la question que je me pose, tout simplement, c'est ce nouveau régime de loi qui se durcit en Arabie Saoudite, sur toute la ligne verte, en Indonésie aussi, ces réactions terriblement passionnées qu'on a eues après les caricatures, et puis surtout ces nouvelles lois qu'on vient d'avoir en Algérie, est-ce que c'est pas quelque part le signe d'une avance du christianisme dans ces pays-là ?
Je n'y crois pas que c'est une avance. Je crois que un peu l'affrontement du monde islamique envers le monde chrétien, eh bien, aboutit qu'ils regardent de plus près dans leur pays où sont des représentants de cette religion.
D'accord.
Et puis ça comme résultat, par exemple en Égypte aussi, on voit ça. En Égypte, l'Église coptique est quand même traditionnelle. Il y a des centenaires qui y sont. Et puis c'est que dans ces dernières années qu'ils ont plus de problèmes avec la violence provenant des islamiques envers eux, envers leurs propres citoyens. Et je crois que ça a affaire à ça. Les islamiques, peut-être, ils sont moins aptes de faire des actions directement chez nous, alors ils se tournent vers leurs concitoyens qui ont la foi chrétienne, et puis ils les coincent. Et puis moi je crois que c'est juste que nous dans l'Ouest on pige aussi que la Bible en somme dit que la communauté chrétienne est un organisme sur le monde entier, et qu'on peut pas laisser aller ça sans réagir. Alors je crois que ça c'est notre responsabilité, qui ont l'avantage d'être dans une autre situation.
D'accord. Alors maintenant, admettons par exemple que Abdul Rahman refasse sa vie dans un pays occidental, est-ce qu'il sera pour autant en sécurité ? Il y a deux facteurs. Il y a donc la communauté musulmane existante dans nos pays. Alors en Suisse, ils ne sont pas très nombreux, ils ne sont que 310 000. Mais dans certains endroits de France, ils sont majoritaires maintenant. Et est-ce que vous pensez que par ce fait-là, ou par le fait d'agents musulmans, je pense un petit peu à la Moutawa, à la police des mœurs saoudienne, est-ce qu'il y aurait un risque de ce point de vue-là ? Est-ce qu'on a décidé de la mort d'Abdul Rahman comme on a décidé de celle de Salman Rushdie, n'est-ce pas ? Et puis qu'on va lui envoyer quelqu'un pour lui faire la peau.
Ça, c'est pas à exclure. Si les musulmans en Afghanistan, ou bien par exemple les talibans s'y mettent, mmh. et puis, oui, le déclarent comme gibier libre à la chasse, eh bien, de la sécurité à 100%, ça n'existe nulle part. Et puis, il faut pas oublier que ces gens peuvent transférer et bouger dans nos pays, nos sociétés, beaucoup plus librement que nous, dans leur pays. Mmh. Et puis, il n'est pas difficile de déceler où il vit, même s'il vit peut-être sous un autre nom, et de le capturer ou bien de le faire tuer ici par des gens payés. Je vous rappelle que ce genre d'opération a été faite aussi déjà par le régime iranien en Suisse, il y a quelques années en arrière, que le service secret iranien a liquidé des Iraniens qui leur plaisaient pas pour une raison ou une autre, et même aussi dans d'autres pays ce genre d'opération est arrivé. Alors de la sécurité 100%, je crois que ça n'existe pas.
Mmh. Et comment est-ce qu'un conseil national chrétien voit la forte montée de l'islam dans notre pays? Je rappelle à nos auditeurs qu'il y a un taux de, en 35 ans, de 1895,6% d'augmentation de la communauté musulmane, dont 50% en moins de 25 ans.
Ouais. Bon, premièrement, je crois qu'il y a deux raisons principales. Une raison, c'est notre politique d'immigration. Notre pays a ouvert les portes largement pour tous ceux qui voulaient venir chez nous. Il y a eu les guerres en ex-Yougoslavie qui ont aussi fait augmenter ce groupe de population. Et il faut encore dire une chose, dans cette immigration, je crois qu'on peut aussi différencier entre les musulmans de quelle région ils viennent. Par exemple, s'il y avait des musulmans aussi qui venaient depuis Sri Lanka ou bien depuis l'Asie, qui ont fait beaucoup moins de problèmes de ce côté-là, avec la violence par exemple, que des musulmans provenant du Balkan. Alors je crois que ça a quelque chose à faire avec la mentalité peut-être de ces gens dans leur pays d'où ils venaient. Ça c'est une chose. Et puis l'autre chose, je crois, c'est nous-mêmes en Suisse. Je crois on a foutu par la fenêtre, en somme, notre base chrétienne. On s'éloigne de plus en plus de la base des valeurs et des normes chrétiennes telles qu'elles sont définies dans la Bible, par exemple les 10 commandements. Et puis on perd l'identité, notre propre identité religieuse. Alors pour celui qui vient chez nous, il n'est pas clair quelle norme, quel barème est valable ici chez nous. Si on serait encore clairement sur la base des 10 commandements, notre organisation d'État, nos normes de comportement, les uns avec les autres, aussi en famille, en couple, en mariage, etc. Eh bien, pour un qui vient d'un pays islamique, eh bien, il serait visible, ici, en Suisse, ou bien en Europe de l'Ouest, eh bien, sont valables les normes chrétiennes. Et je crois, ça, avec cela, on aurait beaucoup moins de problèmes avec l'intégration de ces gens. Mais je crois, un des facteurs principaux, c'est que nous, on a perdu, on a foutu par la fenêtre, vraiment foutu par la fenêtre, notre identité chrétienne, ce qui facilite l'opération d'une communauté islamique qui a aussi son point de vue. S'il regarde notre décadence dans notre pays, ce qu'il favorise peut-être à se dire, eh ben, ce genre de population décadent, eh ben, il n'y a qu'à les liquider de son point de vue.
Ça les encourage.
Oui, ça les encourage.
Mais est-ce que d'un certain point de vue, vous ne pensez pas que cette inoculation de la masse musulmane dans les pays occidentaux n'a pas pu être un peu quelque part intentionnelle, comme une volonté de dissoudre ce qui restait de christianisme?
Ça, peut-être, ça joue aussi un rôle du point de vue des stratégies vues depuis l'islam. Mmh. Et puis, bon, moi je pose encore une autre question. Est-ce que l'islam vraiment est une religion, oui ou non? À mon avis, plutôt non. Moi je dirais plutôt que l'islam, si on regarde la base du Coran, les règles de jeu qui y sont, surtout aussi le comportement envers d'autres, des gens qui ne pensent pas comme le Coran, si on regarde les normes qui y sont, moi je dirais plutôt c'est une idéologie totalitaire, dictature, contre la liberté de l'individu, surtout aussi l'individu féminin, les femmes, et je crois que c'est plutôt une idéologie totalitaire et pas une religion. Mais sous titre religion, eh ben justement, il faut leur laisser plus de liberté. Si l'Occident, si nous, dans nos pays, aurons le courage de dire, ah non, des bases d'idéologie ou de religion qui vont dans cette direction, on les considère comme idéologie et pas comme religion, et je crois qu'on aura un autre atout en main pour faire face à ce genre d'opération.
Ce serait effectivement un début de solution. Je vous remercie, monsieur le conseiller. On va essayer de reprendre notre ami résistant, nos amis chrétiens d'Afghanistan. Hussein?
Yes, sir.
You are here. So, we are talking now with Mr. Markus Pfeffler, a Swiss Christian deputy. So you can speak with him if you want. And what an Afghan Christian today is expecting from Occidental countries and from Occidental politics.
Yes, sir. Hello, Mr. Markus.
Hello. Good
evening. So glad to speak with you.
Yes, it's a very good chance.
Yeah, well, I praise God for this chance to speak to you, and this is a matter that is not only belong to Afghanistan; it belongs to the international community. And I'm so glad that you have taken time to speak with me.
Mm-hmm. Mm-hmm. It's a pleasure for me also.
Yeah. Yes. Thank you very much. If you may have any question about Afghan Christians, I'm ready to answer. But to begin with, that this case is not only with Abdul Rahman.
Yes,
it's not a
yes.
matter with Abdul Rahman, but it is with all the Christians in Afghanistan.
Mm-hmm.
They are saying that Abdul Rahman is mad. He is insane. Mm-hmm. Well, let us say he is insane. Well. What about the other Afghan Christians? I'm not insane. There are many, thousands of other Afghan Christians. They are not insane. They are not mad. You know, it reminds me of people in the days of Jesus Christ. They called Jesus Christ to be a madman. In John's Gospel, chapter 10, verse 20, we read. So Jesus Christ was not insane. So this is a kind of a international situation, not only for Afghanistan. What the international community can do to reach to these Islamic countries' leaders and to tell them why when Muslims come to the Western countries and when they preach Islam, and when people become Muslims in European, in America, in Australia, when they become Muslim, why then in these countries they are not being pursued to be put to jail or put to death? And why in all the Islamic countries this thing happens when a person who chooses for his life what is right for him, and then he is being punished to death?
Yes.
This is not only absurd, but This is like a warning for the future, you know.
Yes, yes.
Je fais juste une courte traduction. Donc,
j'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris ce qu'il avait dit.
Mais pour nos auditeurs, juste une petite traduction pour les auditeurs. Donc, Monsieur Andreas s'inquiète donc de la situation des chrétiens en Afghanistan, et puis demande bien pourquoi, quand dans un pays occidental des gens se convertissent, des occidentaux se convertissent à l'islam, pourquoi ces gens-là ne sont pas persécutés, et ils seraient donc intéressés à avoir un régime un petit peu d'équivalence. Ça, je crois qu'on peut toujours rêver. Je crois qu'un imam assez connu d'Arabie Saoudite avait dit les chrétiens ont le droit de construire des églises en Arabie Saoudite quand j'aurai le droit de construire une mosquée au Vatican. On rappellera quand même que la mosquée de Rome, la grande mosquée de Rome, a été payée par Paul VI, pape de la Sainte Église catholique, évidemment. Alors, je crois que voilà, je vais vous laisser répondre, Monsieur le conseiller.
Je crois que Monsieur vient de dire en somme ce que je viens de dire avant.
Voilà, c'est ça.
Cette différence entre le traitement des musulmans chez nous dans les pays chrétiens et les chrétiens dans les pays musulmans, c'est enfin justement la différence entre l'évangile de Jésus-Christ et le Coran. Au point de vue traitement de ceux qui pensent autrement, dans la Bible, nous n'avons pas d'obligation de la suivre. On a la liberté de la suivre, mais on n'est pas obligé. Bien sûr, on suit les conséquences que ça c'est clair. Et bien sûr aussi que les pays chrétiens ont aussi mené des guerres envers d'autres, mais ça n'a jamais été en suivant l'expression de la Bible. Ça, c'est toujours l'institution Église qui a fait ce genre de guerre pour gagner du pouvoir sur d'autres peuples.
Alors que l'islam dit très clairement qu'il faut mener une guerre contre.
Alors l'islam, le Coran dit expressément, il faut agir comme ça envers d'autres. Alors ça c'est la différence.
D'accord. So Mr. Waffle says that he agrees with you, and that's the real problem we have in Occident. That we agree that people become Muslim. That thousands of Muslims come every year to our countries, and we don't ask the same thing for Muslim countries. And he says also that if a Christian, during the history, the Christians meant some wars and some bad things. If a Christian do that, he is not in complete concordance with the Bible. At the contrary, when a Muslim kill somebody or make a war to some Christian country, he just do what the Quran is asking to him. So another question that for the political support that the Christian can give to the Afghan Christian community, so do you think that diplomatical pressure would be enough to force the actual Afghanistan government to change his position regarding the Christian community?
You know, that is my concern. My concern is that there must be a way out to this. You know, Afghanistan, if Afghanistan wants to walk with the international community in the 21st century, and if in Afghanistan one wants to progress in democracy, Afghanistan has to obey the rules of already set laws according to the United Nations charters, according to the international law of human rights. You know, Abdul Rahman has a human right, and Afghan Christians, they have as an individual. Mm-hmm. Not as a community, as an individual, I have the right to choose my way, my path. Yes. You know, if a person today, you know, in Europe, if he wants to reject God, he is free to reject God.
Yes.
And if a person wants to become a Muslim, he is welcome to become a Muslim. If a person wants to become a Hindu, he is welcome to become a Hindu. And if a person from an Islamic background wants to become a Christian or to choose any other way, he must be welcomed as well.
Yes, that's why I said just before, my question is, do Islam is a religion, or do it is a totalitarian ideology?
I think
the second one is near to that what has happened.
You are so right. You know, the problem with the world is that the world is not realizing that Islam is just not just a religion. It's a way of life for a lot of people.
Yes.
You know this, but this way of life sometimes it takes too much for the entire community, for the world body, you know, and people cannot choose for themselves what to believe and what not to believe.
No. I think in Afghanistan we have perhaps more possibilities of pressure on the government because its actual situation for help from the Western
fund
countries, mm-hmm. yes. In other countries, that is not the same situation. Or if I think in Iran, we have similar problems, similar situations. In Saudi Arabia also, I think Saudi Arabia can, we have more possibilities than we use. In Saudi Arabia, the Western countries shut the eyes because the petrol. And but if we look the treatment from Christian minorities from the government, we have a similar situation as in Afghanistan, but we don't hear so much in the mass media.
Yeah, well, you know, the mass media is so biased.
Yes, yes.
Mm-hmm.
I think what helps our Christian sisters and brothers in Afghanistan is that they see in such an action happened now with these people in Afghanistan, that you don't forget them. And that helps a lot for people in such a situation. I think that's very yes. important.
Yes. I'm just sending a text message to you to understand that is how the things are.
Mm-hmm.
This is from one of my articles, so I'm sending right now.
Yes.
It reads, when Westerners study the Quran, they should properly exegete the Quran, mm-hmm. just as yes. Bible scholars should properly study the word mm-hmm. of the words of the Bible. Mm-hmm. Remember that just as the New Testament is originally written in Greek,
mm-hmm.
the Aramaic,
yes.
the language of the Quran is Arabic.
Yes.
Only a small percentage of Muslims are able to read the Quran in Arabic mm-hmm. so good.
Mm-hmm.
Translation is required.
Mm-hmm.
When we
mm-hmm.
study translation of the Quran, we should remember that some translations offer more moderate sounding interpretation. Obviously,
yes.
Muslims
yes.
who appear on the evening news as experts on the Quran use
mm-hmm.
the most moderate and least accurate translation
yes.
of the Quran.
Yes. Yes.
They
yes.
clearly intend to deceive Americans or Europeans or
mm-hmm.
whoever with the softer,
yes.
Western-friendly translation of the
mm-hmm.
Quran.
That's
Yusuf Ali's translation is the most moderate. For example, the Arabic word qatl
mm-hmm.
has been translated to Americans as fight, while the Muslims themselves read this passage as to kill.
But
so you see, that's the problem.
Yeah, yes,
yeah, but
problem.
Do you believe that a moderate translation of a fanatic text will be enough to save the Christians?
You know, the thing is that it's not compromising. It's not doing anything. You know, people in the West, in the Western society, Muslim scholars, they say something else. And 1.2 billion people in Islamic countries, they say something else.
Uh-huh.
That's the problem. Now, they have to decide who is right. The people who come, I mean, they are in minority. The minority Muslim scholars who come to Europe, they are right. Or the majority, 99% majority who are back home, they are right. Which is right?
Hmm.
Uh-huh.
I think if we want a church which goes well, we have to look in a country who lives on the based on that Quran. And if you look at those countries, we see that there is no freedom for individuals and they are, as I said, a totalitarian ideology, unfree ideology, and that is
they are not free.
Religion.
Yes,
they are not free. And what you said with the translation is done also for them from the representatives in the Western countries, all Islamic people who discussed in the television or in radio or in newspapers are from that moderate kind
yeah.
of Islam,
yeah.
Uh-huh.
and to not shock the Western people. That's a strategy done
yeah.
By themselves.
Yeah.
Yes.
Yeah.
So, dear friends, our show will come to end. My last question to you, Hussein, and also to you, Mr. Waffler. Donc, ma dernière question à Monsieur le Conseiller et à Hussein. Quel futur voyez-vous pour la communauté chrétienne en Afghanistan et dans les pays musulmans? So Hussein, what kind of future do you see for Afghanistan Christians?
You know, I'm always optimistic because I'm a believer in Jesus Christ.
Yes.
And my faith in Jesus Christ encourages me to believe that the last word will be God's word, you know.
Mm-hmm. Mm-hmm.
And God's word says the victory belongs to the righteous one, you know, the people who stand on the righteous one. Jesus Christ is telling me and telling every Christian in Afghanistan in Matthew's Gospel chapter 5 that you are the light of the world.
Mm-hmm.
A light cannot be hidden, you know.
Yes.
A light can, and it will shine. And so the victory belongs to us. And I believe that God is going to be victor one day on all the earth. Forget about Afghanistan, excuse me, about
right.
Afghanistan. And so that is my dream, and that is my hope and my prayer, that people of Afghanistan will realize that they should give the right for every person to choose their religion. And not only people of Afghanistan, but all the Islamic countries, exactly like all the Western countries have given the right for Muslims to come to these countries, and they preach, and people who become Muslims, they are most welcome. Muhammad Ali became Muslim. It's okay.
Mm-hmm.
That's fine.
Mm-hmm.
He chose. Now Islamic countries should give the right to a Muslim to become Christian.
Alors, Monsieur Andreas pense qu'effectivement, celui qui a dit « Ne craignez pas, j'ai déjà vaincu le monde » aura le fin mot de cette histoire, et c'est pourquoi il reste vraiment optimiste. Ceux qui sont du côté du Christ sont du bon côté, et à la fin, effectivement, la victoire leur sera accordée, et pas seulement pour l'Afghanistan, mais pour vraiment tous les pays musulmans. Et il insiste encore sur le fait qu'il veut, il demande très clairement la même liberté pour les minorités religieuses dans les pays musulmans que les musulmans ont obtenu dans les pays occidentaux. Ils viennent, ils construisent des mosquées, ils prêchent. Les chrétiens d'Afghanistan ne demandent pas plus. De votre côté, monsieur le conseiller, quelle est votre opinion ?
Oh oui, moi je m'adhère à ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est pas des interventions de gouvernement qui peuvent changer cette situation. Et ça fait du sens d'en faire. Mais je crois, je me réfère aussi à la Bible, aux promesses qu'elle fait à ceux qui restent fidèles à la parole. Alors, la Bible nous dit que Dieu les porte même à travers des temps difficiles. Et puis, si je lis le Hébreu, le chapitre 11, eh bien là, vous voyez aussi, il y a eu des croyants qui ont subi des pénuries, même la mort, mais qui sont restés fidèles et qui ont eu une promesse de la vie éternelle qui va au-delà. Et puis, encore une chose, je crois aussi que, comme ceux qui vivent dans la poursuite en Afghanistan, ou Iran, ou ailleurs, eh bien, ils voient maintenant justement la réalité de l'assistance de Jésus-Christ qui est envers eux, même dans ces situations-là. Mais il faut aussi dire que nous, en Suisse, ou bien dans les pays de l'Ouest, eh bien, on risque d'ici peu de temps, ça peut changer aussi chez nous.
C'est
alors,
ça.
Alors, oui, il y a aussi des tendances chez nous que tous ceux qui sont pas seulement formellement chrétiens, eh bien, que tous ceux qui sont dits fondamentalistes, eh bien, risquent aussi de se faire coincer, de se faire désavantager. Et je crois que si je regarde aussi en Suisse, il y a quand même aussi des cellules de prière qui voient ces situations, qui prient aussi pour notre pays et peuple, surtout en vue de cette décadence, même aussi des jeunes. Je vois beaucoup de jeunes qui voient la situation de notre pays, de notre peuple, et qui prient pour notre pays et nos peuples. Et là, moi je dis toujours, une démocratie, eh bien, est gérée par les majorités. Mais Dieu, il n'a pas besoin de majorité. Il a besoin, justement, d'une minorité de chrétiens qui vivent la parole et qui font la fonction de sel dans la société dans laquelle ils vivent. Et de ce côté-là aussi, moi, je suis en somme optimiste. Je crois qu'il y a des chances de changement dans le bon côté, même chez nous, comme aussi dans les pays où nos frères et sœurs sont poursuivis par les régimes actuels.
D'accord, ce sera le grand message de cette soirée. Ouais. On peut vraiment dire donc que les chrétiens d'Occident ne laissent pas tomber leur frère d'Orient.
C'est dans la vue de la Bible, eh bien, la communauté de Jésus-Christ est globale et on est appelé aussi à prier pour ceux qui sont dans la pénurie, dans la poursuite. Ça, c'est notre tâche.
D'accord. So Hussein, Mr. Valfler say that the Occidental Christian community pray for the brother of the Muslim countries, and we stay together, of course. Personally, I would be very happy to meet some brother from Afghanistan if they are in Switzerland. I don't know. So if you have some contacts, we could meet them. It would be very interesting. I will make arrangements.
There are many Afghan Christians in Holland, in Germany, in Sweden, in Norway. In fact, right now there is an Afghan Christian conference going on in Norway. I will make arrangements in the future for you to meet.
Very nice. I thank you.
Yeah. Thank you.
I thank you for tonight, and I hope that you will continue on your ministry, and that there will be no case anymore. I hope. I pray for that, Abdul Rahman, and that the Christian community will have more freedom to continue on his way. Thanks for all, monsieur le conseiller, merci beaucoup.
Ouais.
Vraiment, c'était un honneur pour nous de vous recevoir. On a bien reçu votre message. On vous remercie d'ailleurs d'avoir eu le courage d'être aussi franc. Et on vous encourage effectivement à continuer votre combat au Parlement.
Merci.
En espérant que tout aille bien.
God bless you, Mr. Marcos.
Yes.
God bless you, Mr. Marcos. Thank you.
Yes. Thank you.
À bientôt. Merci pour tout.
You also.
Chers auditeurs, on vous remercie d'avoir suivi aussi nombreux cette nouvelle édition de BAF Radio. On passe un petit disque et on prendra congé tout à l'heure. Ainsi s'achève l'émission de ce mercredi 29 mars de BAF Radio. On vous tiendra au courant pour la suite. Pour demain, en tout cas, Chronique de France avec, on espère, Michel de Poncin et Roland Richard, aux conditions habituelles, c'est-à-dire 20h30, 21h30, avec toute latitude pour dépasser, vu que le programme est libre, c'est Internet qui le veut et qui le permet. Voilà, on s'excuse pour ceux qui auraient voulu intervenir et qui n'ont pas pu, et on vous donne donc rendez-vous pour demain. À bientôt.